Ouais, mon lieutenant.
Seconde.
Cela faisait longtemps que nous voulions faire une émission sur le problème de l'accaparement de l'eau avec, en fond, le problème des bassines. Nous voulions aborder les problèmes que représentent la privatisation, la financiarisation et, enfin, la marchandisation de l'eau. Vous comprendrez aisément que les bassines représentent une étape de plus dans l'accaparement du bien commun et de sa mise sur les marchés. Nous avions commencé le mois dernier avec l'intervention de Sylvain Leder sur la privatisation de l'eau. Contributeur au monde diplomatique, il nous avait autorisé à enregistrer son intervention en février dernier lors d'une conférence sur l'eau à Charleville. Si vous avez manqué le début de celle-ci, vous la retrouverez en podcast sur le site de l'émission. Nous allons terminer, puis nous aborderons le cas des méga-bassines et, avec Sainte-Soline en arrière-plan, nous essayerons de comprendre pourquoi tout ça pour ça.
On est prêt ? Oui, mon lieutenant. Alors, à l'attaque !
Dernier temps. Alors, dernier temps, je voulais finir sur une note positive. J'en ai. Vas-y, j'en ai. Regardez, deux pages. 8. Alors, ce qu'il y a, c'est que voilà. Alors, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de la remunicipalisation de l'eau à Paris, à Grenoble. Vous dire que c'est satisfaisant, je dirais, de mon point de vue, non. D'accord ? Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai regardé... Bon, j'ai pris des contacts par le monde diplomatique, etc. Bon, j'ai pas eu de retour, en tout cas, sur des problèmes, conflits d'intérêts ou quoi que ce soit sur Grenoble, par exemple. J'ai pas eu, d'accord. Paris, c'est beaucoup plus compliqué, hein, d'accord. Mais bon, en tout cas, clairement, baisse de prix de l'eau.
Plus fort, s'il vous plaît, merci.
Plus fort. Encore ?
Ouais.
Ah ouais. Sinon, tu viens là ?
Une réverbération.
Ou une chaise ? Ce qu'il y a, c'est que la baisse en fait du prix de l'eau, elle est automatique en revanche, hein. D'accord. Ce qui a coûté très très cher, par exemple à Paris, c'est de reformer en fait tous les salariés, parce que vous voyez, hein, quand ils sont en train de nous dire que en fait ils chopent toute l'expertise, c'est ça le problème, d'accord. Donc à ce moment-là, bon, c'est fait. Maintenant, ça a même servi de modèle. Hein. Il y a eu un prix qui a été remporté par la ville de Paris pour ça, d'accord. Donc bon, voilà, on peut le dire. Mais il y a des cas beaucoup beaucoup plus intéressants. Par contre, un cas qui est pas très connu, j'ai l'impression en tout cas, c'est le cas de l'eau à Naples. À Naples, en fait, il y a eu ce qu'on appelle la commission Rodotà. La commission Rodotà, c'est en réalité quelque chose d'assez révolutionnaire, même si ça n'a pas tellement abouti. C'est l'idée même des communs. Le commun, c'est quoi, en fait ? Alors, les communs, attention, hein. Les communs, il y a des versions de droite, Tirol, d'accord, le prix Nobel Jean Tirol, vous savez. Et il y a des versions très, très à gauche, d'accord ? Il y a des communs libertaires, clairement. Donc, en fait, un commun, pour essayer de faire vite, c'est quoi ? C'est simple, c'est ni une propriété publique, c'est ni une propriété privée. Là, je suis en train de travailler sur un petit village en Ariège, dont je tairai le nom tant que je n'ai pas fini de bosser. Les gars, en fait, c'est simple. Quand l'Europe leur a dit « Oui, vous devez passer par un système d'institutions, clac, 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 des syndics d'eau, nanana », ils ont fait « Non ». Non, ils sont dans l'illégalité complète. Et ils fonctionnent, en fait, ils fonctionnent comme avant, d'accord. Et comme je vais vous montrer un cas après en Amérique latine, où ils fonctionnent comme ça, et ça marche, ça marche. Alors, il y a des circonstances, hein. Ils sont pas très nombreux, par exemple, ça compte, d'accord. Et puis, c'est une mentalité, hein. C'est vraiment une... Voilà, c'est à la fois des gens du terroir bien ancrés dans un bon sens évident et une connaissance de leur terre. Voilà, ça c'est magique, évidemment. Je vous appellerai des paysans. Voilà. Et puis une mentalité comme ça, associative, très à gauche, partageuse. Voilà. Okay, voilà. Donc ça peut aider. Alors, la commission Rodotà sur les biens communs, c'est quoi ? C'est justement de dire qu'il y a des biens que ni le privé ni le public peut s'accaparer. Interdit. En fait, le commun, c'est quelque chose en fait, qui appartient à ceux qui en ont l'usage. Et ils définissent tout un tas de règles, d'accord. Si vous êtes libertaire, c'est à ce moment-là que ces règles-là vont s'appliquer. Et plus vous êtes libertaire, plus elles sont précises. Elles finissent par l'intersectionnalité.
Si tu as envie de rappeler ce que ça veut dire, tu peux. Hein.
En fait, non, mais bien sûr. L'intersectionnalité, c'est simplement se situer à l'intersection de toutes les luttes. D'accord. C'est pas penser que, par exemple, la lutte des classes va pouvoir résoudre les problèmes de racisme ou de validisme ou de misogynie ou de patriarcat. D'accord ? Donc on se situe à l'intersection de toutes ces luttes. On prend tout ça en compte, ce qui est très compliqué. Mais ce qui permet d'avoir des affiches hyper sympas au-dessus du bar. D'accord ? Voilà. Ok, vas-y. Donc voilà, c'est quand même important, ça rend la situation vivable. Disons. Donc ce qu'il y a, c'est que Donc dans ces communs-là, il y a une logique comme ça, de participation collective, seuls les usagers ont un droit d'utilisation sur l'eau, l'utilisation n'est pas que privée, elle doit être prise par des décisions, etc. Il y a tout un tas de trucs, c'est hyper élaboré, d'accord ? Alors je vous renvoie aussi aux travaux de Michel Lallemand, hein, qui a écrit un truc qui s'appelle « L'âge de fer », d'accord ? Mais fer, F-A-I-R-E, et qui travaille sur des espaces qui sont créés, le nom m'échappe, des espaces de hackers, en fait, des hackerspaces, voilà, qui sont avec des versions, mais anarchistes, mais super, d'accord ? Vraiment un truc hyper intéressant, avec des discussions et tout, allez voir. Parmi en a un en Californie, il a une seule règle à l'entrée, d'accord ? La seule règle, c'est fais tout pour qu'il n'y ait pas de deuxième règle, d'accord ? C'est tout. D'accord ? Voilà. Donc, vous voyez un peu l'approche comme ça. Donc, ça fait quoi, évidemment ? Ça ouvre évidemment la discussion. Revenons donc là à Naples. Naples, donc 27 millions de personnes qui participent à un référendum. Des grèves énormes. Pourquoi ? Pour refuser la privatisation imposée par l'Europe. Ils disent non, on ne veut pas que l'eau soit privatisée. Rien du tout. Une entreprise privée est créée, il la démantèle, il gagne le référendum et il crée une nouvelle en fait, société qui est là, c'est là où le commun n'est pas allé jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait, dedans, il y a des représentants de la mairie, c'est-à-dire de la mairie des techniciens nommés par le maire, d'accord, et des représentants de la société civile qui viennent décider de comment on gère l'eau. Ça fonctionne très bien, l'eau est de très bonne qualité et le prix est très bas. Donc ils ont réussi, d'accord. Alors mobilisation populaire derrière, je ne vous dis pas. Après, il y a l'Amérique latine. Et là, c'est les travaux de Franck Poupeau qui sont extraordinaires là-dessus. Franck Poupeau, je ne sais pas si vous connaissez, mais vraiment quelqu'un de chouette, hein, qui vit maintenant en Bolivie. Donc, je reprends quelques trucs comme ça très vite sur l'Argentine. Vous savez que les habitants là-bas, quand il y a eu la privatisation en fait, de l'eau, ils ont simplement utilisé des techniques basiques, c'est-à-dire qu'ils ont piraté les installations, ils ont saboté, ils n'ont pas payé, voilà. Et Suez, en fait... Suez, en fait, qui était là-bas, en fait, sous un autre nom, les a insultés. Il leur a dit vous êtes les plus mauvais consommateurs et les pires clients du monde. Joli compliment, j'aurais bien aimé. Ouais, je trouvais ça classe. Mais... Bon, après, je finirai sur deux exemples. C'est bon, deux exemples.
Vas-y. Ouais.
Donc, la Bolivie. Là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on est sur une tentative de privatisation à la fin des années 90, avec toujours le même discours. On manque d'eau. Les sécheresses se multiplient. Les populations abusent. D'accord ? Donc, il faut les responsabiliser. Et comment tu responsabilises quelqu'un ? En le faisant payer, bien sûr. D'accord ? C'est l'argent qui te responsabilise, évidemment. Bah, oui. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Voilà. Bah, surtout, l'argent que tu me donnes, ça te responsabilise à fond. Donc, voilà. Alors, à ce moment-là, ça a été privatisé, c'est vrai. Trois effets. Trois hausses. La hausse des prix, fois 6. La hausse de la rémunération des responsables politiques, qui étaient aussi responsables donc, de la distribution de l'eau, fois 5. Et devinez ce qui a été multiplié par 1000. Les promesses. Innovation, investissement, qualité, respect des différentes modalités de quartier, blablabla, bla bla, d'accord. Et c'est vrai que, d'ailleurs, dedans, dans l'interview, on voit bien qu'il fait des entretiens de terrain ethnographiques. Hein, dedans, il relève une chose, il demande à quelqu'un, alors, ils ont fait l'innovation, il dit, alors moi, tout ce que j'ai, c'est ils ont repeint les tuyaux en blanc. Ah oui. Ouais, voilà, d'accord. Donc, ils ont essayé ensuite, en fait, ensuite, comme ça ne marchait pas, en fait, ils ont essayé de capter les autres communes qui étaient à côté. La situation est assez marrante. Voilà ce qu'ils proposaient. Donc Veolia, hein, d'accord, qui s'appelle autrement là-bas, mais Veolia. Il s'agit pour nous de mettre en place le développement harmonieux entre les communes et les municipalités frères de la métropole, avec la finalité de restaurer l'équilibre géopolitique national, de dynamiser le développement économique et productif du département. D'accord ? Et d'établir un pôle blablabla, blablabla, blablabla. D'accord ? Comment ils ont fait, en fait ? Ils ont foutu dehors la multinationale, et ensuite, pendant une année, ils se retrouvaient tous les dimanches. Chacun devait apporter c'était 6 sacs, je crois, de 10 sacs de ciment. Et ils ont travaillé toute la journée. Ils ont dit que c'était difficile. Le patron de Veolia a dit, regardez, il se sacrifie et tout. Et ce qui en ressort d'études ethnographiques, c'est qu'ils disaient, c'était dur. C'était vraiment très dur. Mais c'était vraiment très bien. D'accord ? C'était une expérience extraordinaire. On retrouve un petit peu ce que je vous disais sur le petit village en Ariège, où j'utilise encore les corvées. C'est-à-dire que, concrètement, il se passe quoi? Alors moi, j'ai quelques premiers contacts, c'est qu'il y a un gars qui s'installe. Et t'as le vieux du village, je fais, ah, ça fait chier, il va falloir creuser encore, etc., etc. Mais il le fait, bien sûr, avec plaisir. Il le fait, et puis l'autre le fait aussi, et puis tout se passe extrêmement bien. La dernière expérience, c'est celle de la Cochabamba. La Cochabamba, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est une partie d'une ville, en fait, qui est en opposition avec une autre ville, et eux, ils décident de faire de l'auto-organisation, en fait, pour s'en sortir. Et ce qu'on va voir avec eux, c'est que eux ne manqueront pas d'eau pendant les périodes de sécheresse. Alors que la ville bourgeoise voisine, compteur individuel, privatisation, etc., eux, en revanche, vont énormément souffrir de toutes les sécheresses. Donc, en réalité, c'est possible. C'est possible, ça demande évidemment des initiatives, mais aussi des terres particulières. Moi, je vous parle de l'Ariège, je ne sais pas si vous connaissez l'Ariège. Mais voilà, avec ses défauts, l'Ariège, ça reste quand même une énorme terre de gauchistes, et je ne crois pas qu'ici, on soit tout à fait dans les mêmes conditions. Voilà, je ne crois pas. Hein. Voilà. Par exemple, je ne sais pas, là où moi, je traîne, quoi, c'est vrai, Macron, il passe. Mais c'est parce qu'il y a 80% de gens qui ne votent pas, quoi. Ils s'en foutent. Voilà. OK. Et ce qu'il y a, c'est que là-bas, quand vous construisez n'importe quoi, vous ne demandez pas de permis de construire. Enfin, je veux dire, il y a une mentalité. Dès qu'ils ont un problème, ils ont une association. Sur un exemple, ils avaient une crèche à construire parce que les enfants, bon, voilà, il y a plein d'enfants, c'est super. Et ben en fait, le maire, il dit j'ai que ça, ça va être dégueulasse, c'est un préfat, machin. Et les habitants ont fait non. Ça, tu nous le donnes pour les matériaux. Il y a un gars architecte qui dit moi, je te fais les plans. Et ils ont travaillé, pareil, un an et demi, ils ont organisé des fêtes pour financer. Ils ont construit en fait la crèche. D'accord ? Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des terres qui sont plus favorables, évidemment. Ça, vous voyez, c'est ce que moi, personnellement, comme je ne raisonne pas en termes de frontières, je ne vois pas où la pertinence, je ne me sens pas plus proche, en fait, de certains Alsaciens, par exemple, que plus proche de certains Basques. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a des territoires qui sont plus favorables à ça. Malgré tout, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, vous comprenez, les méga-bassines, en fait, en réalité, quand on regarde, ça s'inscrit vraiment dans la droite lignée, en fait, de l'histoire de l'eau, de l'histoire du développement du capitalisme. L'eau, en fait, est une ressource nécessaire qui en plus se raréfie, donc qui est mise à disposition, y compris par les pouvoirs publics et très fortement par eux. C'est pour ça que compter sur eux, c'est très difficile. Ou alors vraiment sur une forme de municipalisme à la Bookchin, vous voyez ce que je veux dire ? Un contrôle étroit des élus, mais quand on voit ce qu'ils font, ça devient difficile d'y croire. D'accord ? C'est vraiment difficile d'y croire, surtout quand on jette un œil sur les conflits d'intérêts, les types de rémunération. Là, on comprend mieux, en fait, comment fonctionne tout simplement le capitalisme néolibéral. C'est pas une exception, c'est pas un problème, c'est pas un mauvais fonctionnement, le fait que l'État soit derrière les intérêts privés. Pas du tout. D'accord ? L'État, il est là pour ça. Donc, il est là pour ça depuis le congrès Lippmann, c'est comme ça que ça a été déterminé, et finalement, ça a assez bien fonctionné, ça a été assez facilement adopté, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. J'avais dit 50 minutes. Tu vas me respecter maintenant. Donc je m'arrête vraiment comme ça là-dessus. Je vous remercie et débattons.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Une, les gouttes d'eau me dégouline dans le dos. Nous pataugeons dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Ouh, la gadou, la gadou. Vivons un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changera pas d'ici. Nous garderons nos parapluies, nous retrouverons le gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ouh, la gadou, la gadou, yeah. Il fait un temps abominable, heureusement tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Jusqu'ici pour jouer des amoureux transis et patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ouh, la gadou, la gadou. Vivons un peu sous le ciel gris. pluies d'eau ou de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine, nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, gadou, la 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 gadou.
Oui, alors quel est le problème? Le problème, c'est l'arrosage des cultures en période estivale, quand l'eau vient à manquer. Et donc, bien des agriculteurs irrigants souhaitent pouvoir pomper l'eau des rivières et des nappes phréatiques. À ce moment-là, oui, mais problème, quoi. Il risque de ne plus y avoir assez d'eau pour d'autres usages, et notamment domestiques. Et puis, ils sont confrontés à des arrêtés préfectoraux l'été, quand les nappes sont à sec ou presque à sec, leur interdisant de pomper dedans. Et donc, en ce cas, les cultures meurent de soif et ces irrigants demandent des solutions alternatives. Hein. Parmi ces solutions alternatives, ce sont les retenues. Alors, les retenues, il y en a de différents types. Hein. Il y a les retenues qui sont des barrages, il y a des retenues qui sont des bassins qui sont creusés en bas des collines pour recueillir l'eau de ruissellement. Et puis enfin, il y a...
Pour cueillir, tu cueilles l'eau, toi.
Recueillir.
D'accord, pardon.
Et enfin, donc, il y a ces bassines qui sont le thème central de l'émission, quoi.
Attention, on parle bien de méga-bassines.
Oui, des bassines, méga-bassines. Je vais revenir un peu plus loin, si vous le voulez bien, sur le vocabulaire.
Tu as oublié une solution alternative, à mon avis. C'est-à-dire changer le modèle d'agriculture.
Oui, mais ce n'est pas une solution alternative, vu que lui, c'était vraiment... Quelle solution peut-on trouver pour irriguer? Donc, remettre en question... Le modèle n'est pas une solution.
Il y a bien des choses à remettre en question dans les bassines. On en parle un peu plus loin, si vous voulez bien.
Alors,
que proposent ces agriculteurs irrigants de pomper de l'eau en hiver quand les nappes phréatiques sont supposées être remplies, la stocker. Et pour pouvoir ensuite la déstocker l'été quand elle vient à manquer pour irriguer les cultures.
En soi, c'est une idée qui est pas totalement bête.
En soi, ouais. C'est a priori, alors que j'avais pas d'opinion bien arrêtée sur les bassines, c'était une idée qui me paraissait pas bête, quoi.
D'accord.
Enfin, moi, je crois.
Puis ensuite, j'ai creusé la question. Oui,
c'est autre chose. C'est pas ça. C'est qu'ils font des bassines, c'est pour contrer la réglementation de l'irrigation. Parce qu'ils ont des quotas d'eau quand ils irriguent.
Oui.
Et avec les méga-bassines, ils n'auront plus de quotas. Quand le quota de leur irrigation qu'ils ont actuellement sera dépassé, ils auront des méga-bassines pour compenser. Et les autres qui n'ont pas de méga-bassines, eux, ils ne pourront pas arroser. Voilà. Le véritable problème, c'est ça. Oui. C'est pour ça que c'est vraiment la fuite en avant, les méga-bassines.
Non, mais ça, on est bien d'accord. On disait juste, au départ, t'expliques ça à un enfant... Il peut dire oui, c'est une idée, quoi. C'est une idée qui peut être intéressante. Si tu ne vas pas chercher plus loin, tu peux dire que l'idée de stocker de l'eau en trop l'hiver pour l'utiliser l'été, ça peut avoir un intérêt.
Oui, je dirais même pas les enfants, je dirais même la présidente de la FNSEA. elle comparait une bassine à un pot-au-feu. Donc elle dit, moi je fais du pot-au-feu l'hiver et je le ressors l'été. Donc okay. Les méga-bassines, c'est pareil. On prend l'eau souterraine qui est financée à 70% par l'argent public et on le ressort l'été pour quelques agriculteurs qui irriguent du maïs. Moitié des irrigants de maïs servent à nourrir les animaux. Pour l'agriculture intensive.
Ouais.
Voilà.
On a tout de suite utilisé le vocabulaire requis, hein, méga bassine. Quand on lit un peu des documents officiels, l'expression retenue, c'est réserve de substitution. On substitue à la flotte prélevée l'été dans les nappes phréatiques, celle qui.
L'hiver.
On substitue à l'eau d'été prélevée dans les nappes, celle qu'on peut stocker dans ces bassines, méga-bassines, l'hiver. Quoi.
Alors en fait, ce n'est pas vraiment une substitution, parce qu'ils vont continuer à pomper l'été. Ils ne vont utiliser leur bassine que quand ils n'auront plus le droit d'aller pomper. Dans l'été, mais en été, les agriculteurs irriguent déjà. Et ils vont continuer à irriguer. Et ceux qui ont les méga-bassines vont continuer à pomper tant qu'ils auront le droit de pomper. Ils n'utiliseront les méga-bassines que quand ils auront des arrêtés d'interdiction.
Comme cet été, il y avait dans notre région là, ouais. Les préfets ont pris des arrêtés parce que bon, l'étillage était très très bas au niveau des rivières et des nappes souterraines où c'est qu'ils irriguaient. Donc la pomme de terre, l'oignon, ce qui concerne, et un peu de maïs. Et donc ils arrosaient jour et nuit. Mais bon, déjà les irrigants, c'est déjà un peu boiteux leur système parce que les compteurs, je ne sais pas qui les vérifie. Et quand ils auront cette interdiction et quand ils auront des méga-bassines, ils auront les interdictions, ok, mais ils continueront avec les méga-bassines de continuer à irriguer des cultures qui sont vraiment gourmandes en eau, quoi.
Merci Julie, précision utile. Et puis évidemment, il y a les agriculteurs irrigants qui ne sont pas impliqués dans les bassines, qui, eux, seront confrontés aux éventuelles interdictions de prélever l'été, quoi. Ce qui a déjà été dit auparavant. J'ai cherché un peu pour savoir combien pouvait y en avoir en France. Je ne sais pas si mon chiffre est bon. À confronter un peu différentes sources, j'ai trouvé, sachant qu'il y en a un certain nombre de bassines qui sont illégales, hein, j'en ai trouvé environ 130. 130 bassines qu'on trouve principalement dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, et puis à l'ouest dans le Poitou-Charentes, enfin, dans les régions qui constituaient le Poitou-Charentes auparavant, maintenant elles sont dans les régions, les départements sont intégrés à la Nouvelle-Aquitaine, à savoir Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, et puis
Vienne, Vendée aussi. Oui, je crois que du côté de Fontenay-le-Comte, il doit y en avoir.
Alors pour le vocabulaire, oui, donc on dit dans les documents officiels, et puis surtout les partisans de ces bassines emploient l'expression réserve de substitution. Ça, c'est quand on est pour, et quand on est contre, d'une façon plus péjorative, on dit bassine ou méga-bassine. Le terme méga n'étant pas exagéré, puisque pour certaines d'entre elles, c'est des surfaces jusqu'à 10 hectares, et puis avec la profondeur, de quoi stocker l'équivalent, notamment à Sainte-Soline, hein, de 250 piscines olympiques.
Ouais. Pour les JO de 2024, c'est parfait. Voilà.
Alors, par la suite, mon propos, j'ai surtout un peu réfléchi ou découvert le problème pour le Poitou-Charentes, en particulier pour les Deux-Sèvres. Je ne sais pas, avez-vous connaissance d'autres méga-bassines, principalement dans les deux régions que je viens de citer, quoi, non ? Ou des projets ?
Bah, des projets, il y en avait 11 méga-bassines qui devaient être faites dans les Deux-Sèvres. Pardon ?
Il m'a semblé comprendre que c'était 16.
Oui, 16. Dans le projet.
Oui, un projet de 16.
Donc, ils en ont retiré 6, je crois, 6 ouais. ou 7, parce que, bon, vu qu'au niveau de la sécheresse hivernale qu'il y a eu, donc ils sont bien rendus compte que ça aurait été impossible de remplir ces bassines. Donc le préfet a dit, bon, on va en supprimer 6 sur les 16 ou 8 sur les 16,
c'est
6. C'est 6, hein.
La décision du...
Donc voilà, c'est déjà, il reconnaissait déjà à moitié l'échec. Donc à partir de là, Mosey-sur-Mignon la bassine de Mosey a été remplie. Avec une nappe phréatique qui était en dessous du niveau, ils sont pas préoccupés de ça, ils ont quand même prélevé dans la nappe. Donc,
Je pensais l'évoquer plus loin.
La réglementation donc a été encore une fois entravée, quoi.
Je pensais l'évoquer plus loin. À la mi-décembre, on s'étonnait, certains, du moins, que le Mignon, qui est un affluent des Deux-Sèvres, soit en partie à sec, à des sec, endroits, ouais. Et puis qu'à son entrée dans le Marais Poitevin, il y avait un débit quasi nul, quoi. Ça, à la mi-décembre, quoi. Mmh.
Et les 6 projets qui ont été arrêtés là, par le tribunal de Bordeaux, ça représentait un prélèvement de 1,6 million de mètres cubes d'eau par an.
Alors, cette interdiction de remplir 6 ou 5 bassines par le tribunal de Bordeaux, moi j'ai lu qu'elle concernait des bassines de Charente-Maritime. C'est pour ça, là, à l'instant, vous évoquiez une partie des 16 bassines prévues dans les Deux-Sèvres qui avaient été interdites de remplissage. Je m'étonne un peu, quoi. Ouais. Bon. Alors, pour poursuivre...
Bassin Sièvre... Bah, après, c'est le bassin de la Sèvre-Niortaise.
C'est ça.
Donc,
c'est ça.
Est-ce oui, que... c'est un bassin d'eau. C'est pas forcément...
Oui, je crois que le Mignon démarre dans le nord de la Charente-Maritime.
Parce que là, c'était sur le bassin de la Sèvre-Niortaise et du Mignon. Donc...
Pour l'interdit prononcé par Bordeaux, par le tribunal de Bordeaux. D'accord. Alors, l'histoire commence comment par une enquête d'utilité publique au cours de l'année 2017, qui, à l'époque, me semble-t-il, quand même, permet à diverses parties prenantes de s'exprimer sur ce projet des méga-bassines dans les Deux-Sèvres. Il y a un protocole qui va être signé à la fin décembre par la plupart des parties prenantes intéressées par le projet. Évidemment, pas par le collectif Bassine Non Merci, quoi, hein, qui... Bon, bah, tu rectifieras. Moi, j'ai relevé quelques engagements dans ce protocole d'accord, des engagements pris par ces agriculteurs irrigants voulant se servir de l'eau de ces méga-bassines en projet. Alors, le protocole intègre, je cite, un réexamen de retenue de substitution et de forage de remplissage en fonction de leur impact. Le développement de pratiques agricoles vertueuses en faveur d'une agriculture durable, plus précisément l'évolution des cultures et pratiques agricoles, donc des évolutions qui doivent se produire, avec notamment la réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques. Dans le protocole, il y a aussi engagement des irrigants, un programme de renaturation des paysages et de la biodiversité.
Renaturation ?
Ouais, c'est texto, le terme que l'on trouve dans le protocole d'accord.
Okay. Okay. Renaturation.
Renaturation, oui, d'accord.
Ouais. Oui, mais déjà en 2016 ou 2017, je ne sais plus, j'étais allée faire un village alternatif et les gens du coin se plaignaient que les marais vendéens, marais poitevins, avaient complètement été, enfin pas complètement peut-être, mais en grande partie asséchés pour faire uniquement des grandes cultures de maïs. Et ils déploraient déjà le manque d'eau. Et déjà à ce moment-là, une bassine, peut-être pas une méga bassine, je ne me souviens plus, mais était... près de Moselle-Mignon, et déjà des activistes se battaient auprès de la préfecture, auprès des instances décisionnelles, pour que cela ne se fasse pas. Donc c'est déjà une de l'histoire, je vais dire, un peu ancienne.
Tu veux ajouter quelque chose à propos de Bassine Non Merci ?
Oui, au début, Bassine Non Merci, bon, c'était une petite association qui est venue des Marais Poitevins. Donc au début, tout le monde n'était pas, les environnementalistes, il faut bien dire, n'étaient pas sous la même longueur d'onde. Donc même l'ex-ministre de l'Environnement, qui était, comment elle s'appelait
Delphine Bateau.
Delphine Bateau. Donc c'était pas du tout clair, c'était de la compensation. Moi, il ne faut pas me parler de compensation quand on parle de paysage et d'agriculture. Quand on détruit un milieu, il n'y a pas de compensation. Et qui allait contrôler s'ils allaient mettre moins d'intrants ou alors s'ils ont été replantés des haies, ça c'est autre chose. On a le même problème ici, c'est comme l'agriculture raisonnée. Qui contrôle tout ça ? Donc personne. C'est que de la communication avec beaucoup d'argent et...
Public.
Mais le problème de fond, il faut changer complètement le logiciel de l'agriculture. Le départ, c'est ça, de parler de méga-bassines. Parce qu'il y a 20 ans, on nous aurait parlé de méga-bassines, on aurait dit mais ils sont cinglés. Et aujourd'hui, ces gens-là, avec l'agro-industrie qui est derrière, il ne faut pas se cacher, derrière les méga-bassines, il y a l'agro-industrie de la viande et du lait. Donc tout ça pour produire du maïs, pour nourrir des animaux. Ils s'en foutent après s'il y a des problèmes d'eau. Eux, ils veulent, ils ont tapé dans le mur, mais ils veulent passer au-dessus du mur. C'est tout le temps la fuite en avant, c'est le cas de le dire. Au lieu d'aller vers une agriculture de l'agroforesterie et refaire un maillage sur le paysage qui a été détruit, non, on fait le pire. Des méga-bassines financées à 70% par l'argent public. Et en plus, on va aller chercher de l'eau au fond, la remonter en surface avec tous les problèmes qu'il y a. Sur l'évaporation, sur les bactéries, sur plein de choses comme ça. Et en plus, combien ça coûte ?
J'ai lu, donc pour les 16 bassines retenues dans le protocole dans les Deux-Sèvres, 60 millions.
Voilà.
Je voulais juste te demander, le protocole, c'est un protocole entre qui et qui ? Le protocole lie qui à quoi ? Quels sont les...
Le protocole lie le préfet.
Ouais. Hein,
le protocole lie des assos environnementales des Deux-Sèvres. Le protocole lie les agriculteurs irrigants.
D'accord.
Pas tous. Certains agriculteurs irrigants, ceux qui auront accès à sa méga-bassine.
D'accord.
Et qui sont des agriculteurs irrigants... qui sont constitués en association en 1979 et qui s'appelle la COP de l'eau.
D'accord, mais et du coup, eux, vu qu'ils vont bénéficier de l'eau, ils payent quelque chose pour bénéficier de cette eau ou pas ?
Alors...
Peut-être que tu vas redétailler, excuse-moi, mais vu que tu nous dis que c'est financé à 70% d'argent public, est-ce que cette COP de l'eau, est-ce qu'eux, ils financent en partie au moins...
J'ai lu que la COP de l'eau mettait 10 millions sur la table. Bon. Info à vérifier.
D'accord.
J'ai lu aussi, pour préparer l'émission, qu'ensuite, les bassines étant remplies, paieraient 30 centimes le mètre cube.
C'est 20 centimes, il n'y a pas longtemps. Ça a augmenté avec tout le bastringue qui est autour, avec le coût qu'il y a sur les manifestations et le coût pour protéger des bassines.
D'accord.
Par encore de l'argent public. Parce qu'on mobilise les gendarmes pour protéger les méga-bassines et ça a augmenté le coût.
D'accord.
Alors, donc, j'évoquais le protocole d'accord signé en décembre 2018. Et les engagements que prenaient certains agriculteurs irrigants, ces engagements, c'était des engagements volontaires. Hein. Deux ans plus tard, le compte n'y est pas et bon nombre d'associations environnementales qui avaient signé ce protocole ont claqué la porte, sont sortis du protocole et du suivi du protocole, y compris Delphine Bateau, la députée des Deux-Sèvres, qui était intéressée par ces contreparties que prenait l'engagement donc, de faire évoluer leur agriculture, ces agriculteurs irrigants, ne voyant pas rien arriver. Il y a seulement deux agriculteurs qui ont effectivement commencé un peu à réduire l'usage des pesticides. Elles attendent toujours d'être plantées. Bon, Delphine Bateau, maintenant, est contre ce projet de bassine, quoi.
Les haies vont peut-être être plantées parce qu'il y a des aides, il y a des subventions maintenant pour replanter des haies. Donc on ne sait jamais. Enfin bon, c'est pas le but n'est pas là quoi.
Enfin, on a commencé à en planter une le 25.
Oui, c'est vrai.
Je sais pas qui c'est qui ira l'arroser. Bon, il n'y a plus après, ça va, la reprise peut être. Mais bon, c'est un peu tard quand même pour planter des haies. Fin mars, le bourgeonnement est en route. Mmh. Donc au niveau paysager, c'est un peu juste quoi. Mais bon, c'est pas 100 mètres qu'il faudrait.
C'était symbolique.
C'est des milliers d'hectares qu'il faudrait sur tout le territoire refaire un maillage paysager pour protéger vraiment les cultures et aller vers de l'agroforesterie qui marche très bien. Christian Amblat, l'hydrogéologue, l'explique très bien. Donc, on peut le faire, mais derrière, il faut se battre contre des lobbies. Donc, les lobbies, aujourd'hui, ils sont là. Et nous sommes là, donc on montre un peu plus les dents maintenant. On ne manifeste plus, on ne signe plus de pétition et on va sur le terrain. Et on s'affronte directement parce qu'on ne veut pas de méga-bassine, que ce soit à Sainte-Soline ou ici en Champagne-Ardenne. Parce que c'est un autre modèle agricole qu'il faut aller, mais pas vers ce modèle de méga-bassine et encore une fois avec des subventions publiques.
On va peut-être récapituler donc, l'ensemble de ces critiques ou en ajouter quelques-unes. Hein. La critique la critique, l'une des critiques importantes, c'est celle que tu viens de rappeler. On peut aussi insister sur le fait que pomper dans les nappes, même en hiver, ça risque de modifier l'équilibre naturel, déjà fragile par ailleurs dans le Marais Poitevin, des sols. Mettre en danger la biodiversité. Alors, quelques exemples, mais je l'évoquais là auparavant, c'est fin novembre, décembre, commence à remplir la bassine de Moselle-Mignon.
Hein. C'est octobre normalement.
Comment ?
C'est octobre à mars qu'on peut puiser dans les nappes phréatiques.
Ouais.
Hein, quand au niveau du déclinement, quoi. Que la végétation rentre en sommeil,
oui.
C'est là qu'on peut puiser dans les nappes phréatiques. Et c'est là qu'elle se recharge le plus. Mais malheureusement, avec le paysage, enfin, on a transformé complètement le paysage en France, surtout ici en Champagne-Ardenne, le paysage a été transformé à 70%, on a fait des zones toboggans, et quand il pleut, l'eau, normalement, c'est 4 jours et demi pour être à la mer.
Oui.
Je parle dans les Ardennes, une rivière, un affluent de la Seine.
Oui.
Normalement, c'est 4 jours. Là, on est passé à 2 jours et demi. Donc, on a fait des zones toboggans, on a fait des remembrements depuis 30 ans. On a vraiment saccagé le paysage. Et le problème, il faut faire le processus inverse. Il faut replanter des arbres. Il faut aller vers une agriculture durable et qui respecte vraiment tout ce qui est environnement et puis aussi l'alimentation.
Oui, c'est d'autant plus urgent que l'agriculture est un ensemble d'activités, oui, qui contribuent énormément à les émissions de gaz à effet de serre. Oui. J'ai lu qu'au niveau mondial, c'est le premier secteur,
oui,
à contribuer aux émissions de gaz à effet de serre, oui, avant les transports, hein, oui, et tout type de transport, hein, avions, maritimes, terrestres.
Oui, mais l'agriculture...
En France, c'est le deuxième.
C'est l'agriculture chimique que,
oui,
tu parles.
Oui, oui, hein, c'est ça, bien sûr.
Si on va vers une agriculture biologique et de l'agroforesterie, et pour faire tout ça, il faudra des paysans. Donc on n'est plus que 500 000 paysans. Il y aura faut au moins, si on veut, dans les 10 ans, au moins 500 000 paysans pour refaire un maillage de paysannerie et puis de production vraiment qui respecte l'environnement.
Et là, sur les 10 ans, je crois qu'il y a la moitié des agriculteurs qui partent en retraite en plus.
Voilà.
Donc,
les terres seront à vendre et seuls des gros industriels de l'agro-industrie pourront racheter les terres. Et c'est un énorme problème pour des jeunes qui voudraient se lancer dans l'agriculture paysanne.
Ouais.
Ouais. Et du coup, ça fait des exploitations qui sont vraiment de superficie énorme, quoi.
C'est ça.
Bah déjà, simplement dans la Marne, je crois que, enfin, au moins au nord de Reims, j'avais lu la moyenne des exploitations étaient de 170 hectares.
Et c'est pas
moyenne.
Moyenne, hein. Et c'est pas les plus grosses, hein. Parce que actuellement, il y a des gros GAEC qui sont au nord de Reims. Ils sont plutôt à 800 à 900 hectares. Oui. Et donc, même les petits paysans des Ardennes qui vont disparaître, c'est les Champenois qui achètent des terres qui sont pas trop cher, encore moins cher que les terres ici.
Parce
que les terres de Champagne ici, entre Reims et Rethel, c'est à peu près 19 000 euros l'hectare. Les terres, on dit herbagères des Ardennes, c'est 3 000, 4 000 euros. Mais eux, ça les intéresse, parce que derrière, il y a les méthaniseurs. Dans ces terres-là, ils produiront du maïs pour nourrir les méthaniseurs. Tout ça, c'est une logique qui est complètement folle d'un système capitaliste qu'il faut vite arrêter, parce que ces endroits-là, c'est tout des terres qui sont bordées par des rivières. Et on sait bien que le maïs est gourmand en eau. Donc ces gens-là sont demandeurs de méga-bassines.
Comme un éclat de rire vient consoler tristesse. Comme un souffle à venir vient raviver le prince. Comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Jeunesse, lève-toi. Contre la vie qui va, qui vient, puis qui s'éteint. Contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, mais qui tient pas. Contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi. Moi, contre ton épaule, je repars à la lutte. Contre les gravités qui nous mènent à la chute. Faire du bruit encore, à réveiller les morts. pour redonner éclat à l'amoureux d'Antoine, pour rendre au crépuscule la beauté des aurores. Dis-moi qu'on brûle encore, dis-moi que brûle encore cet espoir que tu tiens parce que tu n'en sais rien de la fougue et du feu que je vois dans tes yeux. Jeunesse, lève-toi. Quand tu vois comme on pleure à chaque rue sa peine, comment on nous écarte, perfusion dans la veine. À l'ombre du faisceau, mon vieux, tu m'auras plus. Ami, t'y conviendra la crue. Contre-courant, toujours sont les contre-cultures. Au gré des émissions, leur gueule de vie d'ordure. Puisque son est sonné la mort du politique, l'heure est aux rêves utopiques pour faire nos ADN un peu plus équitables, pour faire de la poussière un peu plus que du sable. Dans ce triste pays, tu sais, un jour ou l'autre, faudra tuer le père, faire entendre ta voix. Jeunesse, lève-toi. Au clair de lune indien, toujours surfer la vague. À l'âme, au creux des reins, faut aiguiser la lame. Puisqu'ici, il n'y a qu'au combat qu'on est libre. De ton triste sommeil, je t'en prie, libère-toi. Puisqu'ici, il faut faire des bilans et du chiffre. Sont nos amours toujours au bord du précipice? N'entends-tu pas ce soir chanter le chant des morts? Ne vois-tu pas le ciel à la portée des doigts? Jeunesse, lève-toi. Comme un éclat de rire vient consoler tristesse, comme un souffle à venir vient raviver les princes, comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Quand plongé dans le gouffre, on sait plus où est l'âme. Jeunesse, lève-toi. Contre la vie qui va, qui vient, puis qui nous perd. Contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, puis qu'on enterre. Contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi. Jeunesse, lève-toi.
Intéressant aussi dans ce registre-là, là, c'est que finalement, pour avoir une agriculture nouvelle, reconstituer des terres avec des paysans, Vivecia, si vous connaissez Vivecia, bien sûr, si vous allez sur le site de Vivecia, elle a un onglet qui s'appelle Grand Angle, et sur laquelle elle dit elle-même, Vivecia, c'est écrit textuel, comme ça, c'est que finalement, l'agriculture, depuis 40 ans, a été dégénérative. Donc elle a détruit les écosystèmes, elle a détruit la terre, et aujourd'hui Vivecia s'engage à régénérer l'agriculture. Donc autrement dit, pour régénérer, je ne sais pas si vous en avez parlé la dernière fois lorsque vous avez parlé du financement, mais il est évident que les financeurs vont arriver dans l'agriculture pour régénérer. Pourquoi ? C'est tout simple, c'est un marché. C'est un marché, donc ils vont faire ça, ils vont régénérer ce genre de choses. Et d'ailleurs, ça marche comme ça déjà un petit peu, on voit un peu avec les méthaniseurs, puisque avec les méthaniseurs, ce sont les énergéticiens qui arrivent maintenant, qui viennent apporter de l'argent. Les agriculteurs sont obligés d'ouvrir leur capital aux finances, et donc les financiers arrivent. Donc ce problème-là, il est double, le problème de la reconstitution des paysages et de l'agriculture, c'est que de toute façon, si nous voulons le faire, eux le font
font déjà aussi. Ils ont déjà cette perspective-là. Et la perspective que nous avons, nous, elle est toute proche avec les bassines, mais la reconstruction, la régénération, ça va être terriblement compliqué, quoi, parce qu'on n'a pas de moyens, et ils en ont énormément, quoi. Donc ils vont venir avec de l'argent, donc bon.
Rompre un équilibre naturel, risque des mégabassines là dans le marais Poitevin. J'ai lu que dans le marais Poitevin il y a une tourbière. Alors les tourbières, faut savoir que c'est une réserve, c'est une zone humide avec des réserves une réserve de biodiversité assez considérable.
Mais là c'est
quoi,
pas hein. Une tourbière. Quoi, le marais Poitevin en lui-même est une tourbière. Et alors, c'est...
Moi j'ai lu une tourbière qui fait 30 hectares dans le marais Poitevin.
Le marais Poitevin c'est une tourbière.
Ouais. Le marais Poitevin c'est une tourbière.
Ça veut dire que le marais Poitevin quand il pleut l'hiver, c'est vrai qu'ils ont à peu près une moyenne de 900 mm. Ici c'est 800 mm hein, à l'année. Et ces zones humides ont un rôle très important. Donc, ils stockent l'eau en hiver et redonnent l'eau en été, mais aux rivières autour.
Alors, j'ai...
Et avec les mégabassines, ce qui se passe, c'est que les nappes en profondeur qui soutiennent les rivières en été, quand on puise dans les nappes profondes, on fait des effondrements. Donc, l'été, il y a des effondrements en période d'étiage très, très bas. Et quand il y a des sécheresses... Donc les marais Poitevin, on ne peut quasi plus naviguer dessus.
Par ailleurs, j'ai lu que les tourbières, au niveau mondial, c'est 3% des terres émergées, mais qu'elles stockent deux fois plus de carbone que l'ensemble des forêts mondiales. Quoi.
Bien sûr.
Hein, d'où aussi l'intérêt de les préserver.
Et elles ont un rôle aussi, je crois, pour nettoyer, quoi,
de filtrer.
De filtrer, oui.
T'as pas parlé non plus. Alors là, c'est parce que c'est Basta qui en parlait aujourd'hui. C'est que il dit, je vais pas tout lire, mais je vous invite à aller sur le site de Basta, qui indique justement que là, le tribunal, il allait s'intéresser à un autre point qui n'a pas été abordé contre les bassines. C'est les espèces d'oiseaux menacées qui sont protégées dans le marais de Poitevin. Justement, en fait, les mégabassines vont détruire l'habitat de plusieurs espèces d'oiseaux qui sont protégées. Et donc, en théorie, tu ne pourrais pas construire les bassines par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui n'avait pas encore été abordé par le tribunal.
Mais, je vais faire un peu d'ironie. Ils seraient capables de dire que les oiseaux, dans le marais Poitevin, ils pourraient aller dans les bassines.
Hein. Ouais.
Parce que, oui, les oiseaux, sur 16 hectares, ils peuvent stationner. S'il y a des algues en plus, parce que les oiseaux en migration, nous, on avait, ici, en Champagne-Ardenne, on avait des sucreries. On avait des énormes bassins pour les boues, les bassins de décantation. Donc, vu qu'on est dans un couloir de migration, les oiseaux, quand ils passaient entre Reims et Rethel, donc c'était en période de betterave, et donc les oiseaux descendaient tous dans les bassines aller se gaver d'eau avec du sucre, avec toute la mélasse des betteraves, quoi. Et c'est vrai que c'était des endroits ornithologiques très riches. Et j'espère que les environnementalistes ne vont pas tomber dans le panneau, parce que si on finance les environnementalistes, on va dire, voyez, les mégabassines, ça va attirer les oiseaux, on fait aussi de l'écologie. Hein.
Ils vont dire, regardez le lac du Der, 130 espèces d'oiseaux différentes. Voilà. On va faire la même chose.
On peut aussi ajouter qu'il y a d'autres activités économiques qui dépendent de l'eau et qui sont inquiètes avec ce projet de mégabassines dans les Deux-Sèvres. À savoir que le marais Poitevin, c'est un haut lieu de tourisme et qu'il y a toutes les activités économiques qui gravitent autour. La baie de l'Aiguillon, c'est l'embouchure de la rivière, de la Sèvre-Niortaise. Il y a des éleveurs d'huîtres, de moules, qui sont aussi intéressés pour avoir une eau
douce.
Une eau douce et une eau propre.
Parce qu'il y a des bactéries qui se propagent dans les bassines.
Enfin, il faut quand même, on l'a dit tout à l'heure, mais peut-être insister quand même sur l'injustice de ce projet pour les agriculteurs qui ne seront pas raccordés aux bassines et qui, eux, ne seront pas tranquilles en été pour pomper dans les nappes, parce que si arrêté il y a et arrêté il y aura... Vraisemblablement, vu les changements climatiques qu'on connaît et la sécheresse pluriannuelle vraisemblablement dans laquelle on se trouve, ils ne pourront pas, pas avoir d'eau quoi, pour leur culture.
Au-delà des agriculteurs qui n'en profiteront pas, toute la population qui ne pourra pas en profiter. Ouais. C'est encore une forme de privatisation. C'est que quand tu auras des arrêtés, c'est que toi, tu ne pourras plus arroser ton jardin. Tu pourras même plus te laver. J'exagère un tout petit peu, mais à un moment donné, on va te dire... il y a des restrictions, tu peux plus te laver de telle heure à telle heure, et par contre on pourra aller arroser des champs de maïs, je dirais même un golf, c'est bête, mais qui nous dit que les bassines dans 5 ans ne vont pas être utilisées pour arroser des terrains de golf? Si là on autorise ça, j'ai du mal à me dire qu'on n'autorisera pas autre chose.
Donc, il y a des endroits comme la Tunisie où il y a des bassines, mais c'est fait pour pouvoir avoir de l'eau pour les complexes touristiques. Hein. C'est pas eux, c'est pas l'agriculture, hein, mais c'est un autre problème. Mais
sans aller peut-être sans aller jusque là, il suffit simplement de penser que avec le chercheur américain qui a créé le crédit carbone, on pourrait très bien imaginer qu'il y a un crédit eau. Ouais. Autrement dit, les agriculteurs reliés sur une bassine pourraient très bien s'il a plu, si la bassine est bien remplie, si les nappes phréatiques sont bien, ils pourraient avoir droit à un quota d'eau. Finalement, le quota n'est pas utilisé, ils pourraient le revendre à un autre qu'on aurait besoin. Donc, ils pourraient revendre une collectivité locale, ils pourraient revendre un particulier, un autre fermier. Donc, ils se débrouilleraient pour irriguer. Hein, parce que l'irrigation, c'est obligatoirement des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de tuyaux, c'est ça ? Mmh. Et donc, ceux qui n'ont pas de tuyaux n'irriguent pas. Donc, il pourrait très bien y avoir un crédit eau, après tout. Pourquoi pas ? Donc, comme il existe un crédit carbone. Hein.
C'est ce qui s'est passé dans les Deux-Sèvres, certaines bassines. L'agriculteur qui nous a prêté le terrain pour le rassemblement du mois d'octobre, le 25 octobre, c'était un agriculteur qui était dans le syndicat d'irrigation. Et ça s'est très mal passé, parce que lui n'avait pas mis le volume d'argent pour avoir le volume d'eau. Donc au bout d'un moment, on y a coupé l'eau. Donc il ne pouvait plus irriguer. Donc après, il y a eu des bisbis entre eux, donc il en est sorti. Bon, il a dit que c'était un système complètement fou pour arroser du maïs. Et maintenant, bon, il est parti vers une chose qui est... ses champs servent à... Il a des subventions de l'Union européenne pour accueillir l'outarde qui vient nicher dans ses champs. Et donc, il nous avait expliqué que oui, lui, il avait fait ça sur aussi avec ses copains qui sont des agriculteurs. Donc, au niveau social, là-bas, les agriculteurs sont complètement divisés. Avant, ils arrivaient à travailler ensemble. Et je l'ai rencontré à la manifestation là, il était avec moi. Et donc, il m'expliquait, quand il est passé dans les villages, maintenant, c'est des insultes, c'est des choses comme ça. Au niveau social, ces bassines font un ravage terrible.
Mmh. En plus de ça, ça va conclure. Enfin, au niveau du prix du foncier, dans cette région, ça va créer une différenciation entre les terres qui pourront être irriguées, qui seront vendues à un prix beaucoup plus élevé que les terrains qui ne bénéficieront pas. Donc ça fait de la concurrence aussi au niveau du foncier.
Bon, alors, confronté à toutes ces critiques, les porteurs du projet, la COP de l'eau, donc les irrigants qui nous bassinent, se sont livrés. Le conflit autour de ces bassines a pris une dimension scientifique entre ceux qui sortaient des résultats de leur modélisation, des résultats a priori avec des impacts positifs, ceux qui les contredisaient, les critiquaient. Est-ce qu'on évoque cela ? Je ne suis pas remonté très loin, simplement, il y a un climatologue du GIEC et puis un chercheur de l'INRAE qui ont été... je précise les sigles. Non, l'INRAE, le GIEC, tout le monde connaît. L'INRAE, c'est l'Institut National de Recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Hein.
Oui, c'est anciennement l'INRA.
Oui, qui ont été auditionnés par l'Assemblée nationale en juillet 2022 pour expliquer que ces bassines sont une maladaptation au changement climatique. Vous avez aussi un chercheur du CNRS, un directeur de recherche au CNRS, Christian Amblard, spécialiste de l'eau, qui estime, mais ça on l'a évoqué auparavant, que les pertes d'eau par évaporation en fonction de l'ensoleillement et du vent peuvent se situer entre 20 et jusqu'à 60%
de l'eau stockée. Ça, c'est l'étude américaine qu'il a repris. Hein.
De l'eau stockée dans la bassine, alors que l'ex-présidente de la FNSEA a dit que ça ne pouvait pas dépasser les 7%. Quoi, hein. Bref, les pro-bassines ont fini pour essayer de trancher dans ces conflits d'experts, ont fini par commander une étude auprès du Bureau de recherche géologique et minière.
BRGM.
Ouais, le BRGM, lequel a conclu qu'avec les bassines, il y aurait un moindre abaissement des niveaux des nappes phréatiques en été. Et donc, il indique de 50 cm à 5 mètres, c'est considérable comme fourchette, et qu'il y aurait un débit moyen rehaussé de 2 à 300 litres par seconde à l'entrée du marais Poitevin au printemps-été. Évidemment, les opposants au projet ont réagi en commandant une étude, une contre-expertise, qui a été publiée fin janvier 2023. Mm-hmm. Une expertise effectuée par Anne Morouen-Bastier. Oui. Vous voulez des détails ? Donc, c'est une spécialiste en hydrologie et géologie qui a critiqué le logiciel de modélisation utilisé par le BRGM pour l'étude d'impact du projet, en disant que si ce modèle est adapté à des grands bassins hydrographiques, il ne l'est pas pour des bassins sur des dimensions géographiques plus restreintes, des bassins locaux. Qu'a-t-elle dit aussi que le modèle utilisé par le BRGM ne permet pas de tenir compte des conditions météorologiques récentes et encore moins futures dans la mesure où il repose sur les seules données de la période 2000-2011. Quoi d'autre encore ?
Il ne tient pas compte des conséquences du réchauffement climatique.
Oui, absolument, ouais, c'est ça. Que sur les 19 piézomètres. Alors les piézomètres, ce sont des jauges dans les nappes phréatiques.
C'est ça. Ouais.
Sur les 19 piézomètres modélisés, deux seulement montrent une amélioration significative des niveaux minimum annuels, 13 autres ne montrent qu'une différence de quelques centimètres, et 4 ne montrent aucune influence. Et donc, elle conclut que les résultats de la majorité des stations devraient donc être déclarés non significatifs. Quoi. Hein ? Alors, on en est là. Oui, elle insiste aussi sur l'étude du BRGM qui laisse complètement de côté l'impact du remplissage de ces bassines sur les petits cours d'eau. Quoi, qui...
ouais, l'environnement local.
Oui, le chevelu. Quoi. Mmh.
C'est ça.
Dire aussi qu'ensuite le BRGM lui-même est revenu sur son rapport en disant qu'effectivement il était peut-être pas si bien que ça et le modèle était peut-être pas si pertinent que ça.
Absolument, oui, j'ai eu ça aussi.
Donc c'est intéressant de voir que finalement le BRGM fait un rapport. Si personne ne dit rien, s'il n'y a pas d'opposition, ça passe. Comme là il y a eu une opposition, le BRGM revient dessus pour reconstruire peut-être autre chose, je ne sais pas. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une opposition, quoi. Déjà par rapport à ces écrits officiels là, mais ça veut dire aussi que ça engage sur les années à venir aussi. Donc bon, on peut pas laisser les choses comme ça ou les choses se dire comme ça. Donc, et c'est intéressant parce que le BRGM revient dessus.